La console, Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA
Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 11 octobre 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Seboudia. Tout d'abord, les titres. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno promet un gouvernement d'union nationale dans les prochains jours. Appel d'un collectif de personnalités pour stopper le méga projet pétrolier du groupe Total Energy en Ouganda et en Tanzanie. Au Lesotho, victoire surprise du candidat millionnaire Sam Mategani. Il a créé son parti 6 mois seulement avant le scrutin de vendredi. Le président américain Joe Biden promet à Kiev des systèmes perfectionnés de défense aérienne après les frappes russes massives sur l'Ukraine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno a été investi lundi président d'une transition prolongée de 2 ans avant des élections démocratiques. Il a promis de nommer rapidement un gouvernement d'union nationale, 18 mois après avoir pris le pouvoir à la tête d'une junte militaire. Un labourier dialogue national inclusif et souverain avait entériné samedi la possibilité pour le chef de l'État de se présenter à la présidentielle à l'issue de la transition, mais en l'absence d'une très grande partie de l'opposition politique et des principaux groupes armés rebelles qui dénoncent la perpétuation de la dynastie Déby au pouvoir. La nouvelle épidémie d'Ebola qui sévit dans le centre de l'Ouganda a fait 17 morts en 3 semaines. C'est ce qu'a indiqué lundi le ministère de la Santé à Kampala. Le 5 octobre, l'Organisation mondiale de la santé avait fait état de 29 morts depuis le début de l'épidémie. Un collectif de personnalités politiques, scientifiques et de responsables d'ONG a appelé lundi dans une tribune à stopper le méga projet pétrolier du groupe Total Energy en Ouganda et en Tanzanie. À en croire cette tribune publiée dans le journal Le Monde, le groupe français s'apprête à commencer les travaux de forage dans l'un des plus beaux parcs naturels d'Ouganda. Ce projet précipiterait, selon ce collectif, le bouleversement climatique et son cortège de catastrophes meurtrières, John Linden.
Dans un rapport publié la semaine dernière, 2 associations françaises ont alerté sur les coûts humains, climatiques et environnementaux inacceptables en Ouganda et en Tanzanie de ce projet du groupe français Total. En février dernier, Total Energy avait annoncé un accord d'investissement de 10 milliards de dollars avec l'Ouganda, la Tanzanie et la compagnie chinoise Sinopec, comprenant notamment la construction d'un oléoduc de plus de 1400 kilomètres reliant les gisements du lac Albert dans l'ouest de l'Ouganda à la côte tanzanienne. Les signataires exhortent à dire non au pipeline géant de Total en Afrique de l'Est. Si nous n'arrivons pas à arrêter ce projet, ce sont jusqu'à 34 millions de tonnes de CO2 qui seraient émises chaque année durant 25 ou 30 ans et précipiterait le bouleversement climatique et son cortège de catastrophes meurtrières, alerte-t-elle. Parmi les signataires figurent plusieurs dizaines de personnalités, dont des députés européens et français, des ONG ougandaises et tanzaniennes, des représentants de Greenpeace France, de France Nature Environnement ou encore des Amis de la Terre.
La première ministre française, Elisabeth Borne, a dressé un bilan positif lundi de son voyage de 2 jours en Algérie et premier déplacement à l'étranger qui a permis, selon elle, aux 2 pays d'avancer vers un partenariat renouvelé inscrit dans la durée. Des marins ont repêché lundi au large du sud-est de la Tunisie 8 corps de migrants selon le Croissant Rouge tunisien. On pense qu'ils font partie des 18 Tunisiens, y compris un bébé, dont l'embarcation aurait coulé il y a 2 semaines et qui sont portés disparus depuis. Candidat surprise, le millionnaire et philanthrope Sam Mategani 64 ans, qui a fait fortune dans les mines de diamants, obtient le plus grand nombre de sièges au Parlement du Lesotho sans atteindre la majorité absolue. C'est ce qu'a annoncé lundi la commission électorale. Son mouvement RFP, Révolution pour la prospérité, a été créé seulement 6 mois avant le scrutin de vendredi. Sa réputation et la colère des gens envers les autres partis lui ont permis de gagner des voix, estime un politologue local. M. Matekani, parti de rien en se lançant à 22 ans dans l'élevage d'ânes, devrait devenir Premier ministre. Il aura besoin cependant d'une coalition pour gouverner la monarchie constitutionnelle marquée par une forte instabilité politique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Iran, malgré la répression meurtrière, la contestation persiste entre sit-ins d'étudiants et grève d'ouvriers pour dénoncer la mort de Mahsa Amini. Il y a près de 4 semaines, plusieurs manifestations ont eu lieu lundi dans de nombreuses régions du pays, Nanit Talani.
Sit-ins ont été organisés par des étudiants de plusieurs universités et à l'école pour filles de Mahabad dans le nord du pays, où des écolières ont ôté leur voile en signe de protestation. À Téhéran, la capitale, une large foule était rassemblée devant l'université polytechnique pour dénoncer la pauvreté et la corruption, criant « mort à la dictature ». Le mouvement de contestation a aussi rallié des travailleurs du secteur industriel avec des grèves observées dans des usines. Les rassemblements en solidarité avec la contestation se sont également poursuivis à l'étranger. Les autorités dénoncent les manifestations comme des émeutes, accusant des pays étrangers de les attiser. Selon les ONG, la répression a fait au moins 95 morts depuis le décès le 16 septembre de Mahsa Amini, morte 3 jours après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran. Face à la poursuite de la répression, le Royaume-Uni a annoncé des sanctions contre la police des mœurs iranienne et des responsables politiques et sécuritaires du régime. Les sanctions suivent celles déjà prises par les États-Unis ou le Canada contre des hauts responsables iraniens.
Le président américain Joe Biden a promis lundi à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de continuer à fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour se défendre, y compris des systèmes perfectionnés de défense antiaérienne, selon un communiqué de la Maison-Blanche. M. Biden a condamné fermement les bombardements russes meurtriers d'une ampleur inégalée depuis des mois sur Kiev et d'autres villes d'Ukraine lundi, les qualifiant de preuve de la brutalité absolue du président russe Vladimir Poutine. Selon les autorités ukrainiennes, ces bombardements ont fait au moins 19 morts et 150 blessés à travers le pays. Abdulrahman Dia.
Ces attaques ont tué et blessé des civils et ont détruit des cibles non militaires, a fustigé le locataire de la Maison-Blanche. Joe Biden a assuré que ces frappes ne feraient que renforcer le soutien américain à l'Ukraine et que les États-Unis continueraient d'imposer un lourd coup à la Russie pour son agression. Selon les autorités ukrainiennes, l'armée russe a tiré lundi 83 missiles, dont environ la moitié a pu être interceptée. Des infrastructures énergétiques, mais aussi des cibles civiles, dont une aire de jeu pour enfants, ont été atteintes. Le président russe Vladimir Poutine a justifié ces bombardements massifs en dénonçant ce qu'il considère comme une attaque terroriste de l'Ukraine contre le pont reliant le territoire russe à la Crimée, péninsule annexée par Moscou en 2014. Ces frappes meurtrières d'une ampleur inégalée ont été qualifiées de potentiels crimes de guerre par les Occidentaux. Elles interviennent dans un contexte de difficultés militaires pour Moscou, dont les forces ont récemment reculé face à la contre-offensive de Kiev dans l'est et le sud de l'Ukraine.
Les bombardements russes seront ce mardi au centre des discussions des membres du G7 que la première ministre britannique Liz Truss doit appeler à ne pas faiblir dans Yotta. Le président ukrainien Zelensky doit participer à cette réunion virtuelle d'urgence. Hier à l'ONU, l'Ukraine a accusé la Russie d'être un État terroriste pour avoir tué des civils en frappant massivement Kiev et de grandes villes. Des bombardements dénoncés également par Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. En Haïti, des milliers de personnes ont manifesté hier à Port-au-Prince pour protester contre le gouvernement et son appel à l'aide étrangère pour faire face à l'insécurité, au lendemain d'un appel du chef de l'ONU au déploiement d'une force armée internationale dans le pays. La manifestation a été émaillée de violences, dont des pillages, et la police a fait usage de gaz lacrymogène. La Minute Éco, Nanit Talani.
Le gouvernement du Congo-Brazzaville a décidé d'exonérer de taxes pour une durée d'un an plusieurs produits de première nécessité afin de lutter contre la vie chère. Ces produits alimentaires de base et intrants agropastoraux et halieutiques bénéficient de l'exonération du droit de douane, de la redevance informatique et de la taxe sur la valeur ajoutée, indique une circulaire du ministère de l'Économie et des Finances. La Guinée-Bissau s'attend à plusieurs résultats importants dans le secteur de l'énergie suite à sa coopération avec la BAD entre 2022 et 2026. Le projet permettra l'installation de 500 lampadaires solaires, la réduction des pertes d'énergie, la finalisation d'une ligne d'interconnexion de 225 kV de la dorsale ouest dans le bassin de la Gambie et le développement des énergies renouvelables que la Guinée-Bissau ne produit pas actuellement. La part du renouvelable dans son mix énergétique sera portée à 36%. Le taux d'accès à l'électricité à Bissau devrait atteindre 50% contre 20% aujourd'hui. Terminons par l'économie de l'Afrique subsaharienne qui devrait croître de 3,3% cette année contre 4,1% en 2021 selon la Banque mondiale. Cette baisse sera tributaire du ralentissement de la croissance mondiale, de la sécheresse, du risque accru du surendettement et de la hausse de l'inflation aggravée par la guerre de la Russie en Ukraine.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Fin de carrière pour Enoch Mouepou en raison d'un problème cardiaque.
Oui, le milieu de terrain de Brighton et de la Zambie va devoir mettre un terme à sa carrière de footballeur à 24 ans en raison d'une maladie cardiaque héréditaire. L'annonce a été faite par son club anglais. D'après Brighton, cette maladie, qui peut s'aggraver avec l'âge, fait courir un risque extrêmement élevé de souffrir d'un arrêt cardiaque potentiellement mortel s'il continue à jouer en compétition. Enoch Mouepou s'était senti mal lors d'un vol pour rejoindre la Zambie à l'occasion de la dernière trêve internationale en septembre. Après une hospitalisation au Mali, il avait subi de nouveaux tests à son retour en Angleterre. Auteur de 3 buts en 27 apparitions avec Brighton, Mouepou a expliqué sur Tudor avoir réalisé son rêve en jouant en Premier League. Le dernier match de Mouepou aura été la victoire 5-2 contre Leicester début septembre. Pour le docteur Ibrahim Seyré, médecin à la Fédération burkinabé de football, des arrêts de carrière dus à des maladies sont possibles et de plus en plus fréquents dans le football surtout.
Les maladies cardiaques héréditaires, ce sont des pathologies rares. Ce sont des pathologies rares qui nécessitent vraiment une expertise médicale spécialisée et en vue d'une prise en charge optimale. Parce que si elles ne sont pas traitées à temps ou si elles ne sont pas diagnostiquées à temps, elles peuvent conduire à des complications fatales telles que la mort subite. Ce qu'il faut également retenir, que ce n'est pas la première fois qu'un joueur est contraint d'abandonner la pratique de football après un examen médical. Vous avez le cas de Liliane Thuram en 2008 lorsqu'il voulait signer au PSG, qui a été contraint d'abandonner après la découverte d'une cardiopathie. Donc ce sont des cas comme cela qui nous amènent des fois à nous poser vraiment la question sur le rôle de l'examen médical pré-compétition.
Le docteur Ibrahim Seyré, médecin à la Fédération burkinabé de football, joint à Ouagadougou.
Quatrième journée en Ligue des Champions ce soir.
Le Real Madrid, tenant du titre, Manchester City et le PSG pourraient valider leur ticket pour les huitièmes de finale dès ce soir. Un succès des Madrilènes et des Mancuniens, tous deux auteurs d'un 9 sur 9 depuis l'entame de cette Ligue des Champions, qualifierait ces deux équipes pour le tour suivant. En raison du conflit en Ukraine, le club merengue se déplace à Varsovie pour affronter le Shakhtar Donetsk. Manchester City se déplace à Copenhague, accroché à Lisbonne la semaine passée, un but partout. Le Paris Saint-Germain voudra reprendre la première place du groupe H face au Benfica. Dans le même temps, la Juventus ira chez le Maccabi Haïfa. L'AC Milan et Chelsea, qui se rencontrent en Lombardie, voudront surtout éviter une défaite qui compromettrait sérieusement leurs chances de qualification.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno a été investi hier président de transition. Au sortir d'un laborieux dialogue national, il a promis de nommer rapidement un gouvernement, 18 mois après avoir pris le pouvoir à la tête d'une junte militaire. Le général de 38 ans aura également la possibilité d'être candidat à la présidentielle au terme de la transition qui, elle, a été prolongée de 2 ans. Une grande partie de l'opposition tchadienne et des groupes rebelles critiquent ce qu'ils appellent la perpétuation de la dynastie Déby au pouvoir. Et qu'en pense le citoyen lambda? Notre correspondant André Kodmajingar a recueilli lundi ses réactions à N'Djamena.
Ce dialogue, ça n'a pas été un dialogue comme il se doit parce que toutes les composantes de la couche sociale de la société tchadienne n'ont pas été prises en compte. Il y a l'Église catholique qui s'est retirée, les membres, quelques membres du FARC et aussi les partis opposants comme la société civile, comme Wakitama, et également les partis opposants tels que le parti Les Transformateurs. Maintenant, avec l'investiture du président qui vient d'être fait aujourd'hui, moi, je pense que nous sommes en train d'aller vers un échec total. Le Tchad, dans les jours à venir, sera vraiment compliqué.
Ces engagements, c'est de finir les 18 mois et partir. Et c'est l'attente la plus importante de toute la population tchadienne. Ça, c'est de un. De deux, il y a la question de forme de l'État. Que les Tchadiens attendent une résolution. Que les participants aient le courage de dire unanimement que nous optons pour un État fédéral. Ça serait un ouf de soulagement pour le citoyen tchadien lambda. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Je peux dire simplement que le dialogue est médiocre. Ce n'est pas un truc qui est clair. Parce que le président, il était déjà un militaire. Mais pourquoi chasser les 13 ou bien les 14 et puis le laisser? Il est considéré comme un militaire.
Nous observons avec beaucoup d'attention si ce dialogue peut nous fait une refondation de l'État. Mais à notre grande surprise, nous avons compris que c'était une forme d'arrangement pour arriver à une fin qui ne peut pas satisfaire tout le monde.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la transition au Tchad prolongée de 2 ans. Le général Mahamat Déby Itno a prêté serment lundi en tant que président d'une transition de 24 mois, à l'issue de laquelle il pourra se présenter comme candidat à la présidentielle. C'est l'une des principales conclusions du dialogue national inclusif et souverain qui a pris fin le week-end en l'absence d'une bonne partie de l'opposition et de la société civile qui dénonce une succession dynastique du pouvoir. Comment analyser la prolongation de cette transition au Tchad? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
La Guinée exploite depuis plusieurs décennies la pisciculture face à la surpêche. L'élevage de poissons est une alternative pour renforcer la sécurité alimentaire. Mais l'exploitation piscicole en Guinée a besoin de moyens pour répondre à une forte demande de consommation des produits halieutiques. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
Avec 300 km de littoral sur l'Atlantique, la Guinée est un pays où se pratiquent différents types de pêche. En plus de la pêche industrielle et artisanale, les Guinéens consomment aussi les poissons des étangs ou des bassins. Que pensent les Guinéens de la pisciculture ? Alpha Oumar et Ibrahim Assila, deux jeunes rencontrés dans la banlieue de Conakry.
C'est une culture qui est beaucoup développée dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. On appelle souvent la pisciculture paysanne parce que les paysans souvent font cette culture-là, élèvent donc des poissons dans l'objectif peut-être de s'autosuffire en alimentation ou de vendre ces poissons sur le marché. Mais il y a aussi la pisciculture urbaine qui se pratique à Conakry, dans la capitale. Et souvent, il y a certains qui mettent l'eau dans des bassins et qui élèvent des poissons.
Il n'y a pas beaucoup de personnes qui pratiquent la pisciculture parce que ce n'est pas développé chez nous. Et les moyens, ça manque beaucoup. Je sais que c'est un secteur d'entrepreneuriat. Beaucoup de jeunes peuvent entreprendre en faisant la pisciculture.
Parmi les rares pisciculteurs dans la capitale, Youssouf pratique la pisciculture hors sol.
J'ai une petite exploitation que j'ai mis chez moi. J'ai un bassin de 3 mètres cubes, un autre de 5 mètres cubes, un autre de 7 mètres cubes et celui-là, il est de 15 mètres cubes. J'ai les poissons, les tilapias, les gris et les rouges. Et en plus, j'ai les silures qu'on appelle communément les poissons-chats. La pisciculture hors sol, vous pouvez le faire partout où vous voulez. Vous avez un bac hors sol en plastique, vous pouvez le faire même dans votre salon.
Il a commencé l'exploitation il y a un an et même si ces poissons sont vendus dans la capitale, son activité n'est pas sans difficulté.
Bon, je suis confronté à beaucoup de difficultés déjà par rapport à l'eau. Vous devez avoir de l'eau en abondance et par rapport à ça aussi, l'eau de robinet n'est pas conseillée pour la pisciculture hors sol. Et de deux, quand vous mettez l'eau de robinet, je me retrouve avec une facture de plus de 800 000, 900 000 par facture. L'aliment, au début, je l'achetais jusqu'au Mali. Mais heureusement, il y a un monsieur qui a commencé à importer l'aliment flottant en Guinée. Mais c'est encore cher parce qu'on se retrouve avec un sac de 15 kilos à 350 000.
La Guinée dispose d'expérience dans la pisciculture des tangues grâce à des innovations dans les aménagements de bas-fonds et un accompagnement technique attractif. Même si la plupart de ces exploitations sont familiales, leur impact sur la consommation n'est pas à négliger face à la surpêche. La diminution des produits halieutiques est par ailleurs l'une des préoccupations de la Guinée. En 2021, le gouvernement avait interdit la pêche industrielle pour 2 mois de repos biologique. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Le président russe Vladimir Poutine a promis lundi des répliques sévères en cas de nouvelles attaques ukrainiennes contre la Russie après la destruction partielle samedi du pont de Crimée, infrastructure stratégique et symbole de l'annexion de cette péninsule ukrainienne. Sur proposition du ministère de la Défense et en conformité avec le plan de l'état-major, des frappes massives avec des armes de haute précision de longue portée ont été menées contre l'infrastructure énergétique, militaire et de communication de l'Ukraine, a dit M. Poutine lors d'une réunion de son Conseil de sécurité retransmise à la télévision. Cette réplique de la Russie suscite des réactions à travers le monde. Pour une analyse, John Linden a joint Marie Dumoulin, directrice du programme Europe élargie au Conseil européen des relations étrangères.
Je ne crois pas qu'on doive anticiper un grand changement sur le champ de bataille dans les semaines qui viennent. Les Ukrainiens vont poursuivre les efforts de contre-offensive qu'ils font dans le nord du pays, autour de Kharkiv et dans la région de Kherson. Les Russes ont marqué leur mécontentement en multipliant les bombardements sur des cibles civiles. Aujourd'hui, ils pourraient continuer dans les jours qui viennent, mais ça ne leur donnera pas un avantage significatif sur la ligne de front elle-même. C'est plus une manière de mettre la pression sur les autorités ukrainiennes en faisant un maximum de victimes et de dégâts dans les villes ukrainiennes.
Parlant justement de pression, le numéro 2 du Conseil de sécurité de la Russie et ex-président Dmitri Medvedev a assuré que les frappes massives contre l'Ukraine n'étaient qu'un premier épisode. La Russie appelle par ailleurs au démantèlement total du pouvoir politique ukrainien. Quelle lecture faire de ces déclarations?
Il s'agit en grande partie, de mon point de vue, de gesticulation pour se placer dans le camp des faucons, en quelque sorte. On sait que Dmitri Medvedev était plutôt une figure libérale par le passé. Depuis le début de la guerre, il a multiplié les déclarations très outrancières sur cette guerre. Honnêtement, je ne pense pas que la Russie ait la capacité d'augmenter significativement son offensive sur la ligne de front elle-même.
Comment jugez-vous la position des autres acteurs dans ce conflit? Je veux parler des États-Unis, de la Chine, de manière globale, de l'Afrique et de l'Europe.
Alors, il ne s'agit pas à proprement parler d'acteurs du conflit, puisque aucun de ces pays n'est belligérant dans cette guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine. Les États-Unis et les Européens soutiennent l'Ukraine non seulement parce que c'est l'Ukraine, mais aussi parce qu'il y a des questions de principe qui sont engagées, le principe de non-recours à la force, le principe d'intégrité territoriale et de respect de la souveraineté des États. D'autres pays sont plus réticents à soutenir l'Ukraine parce qu'ils ont une relation avec la Russie qui est une relation assez forte. C'est le cas de la Chine, c'est le cas d'un certain nombre de pays africains. Mais il n'est pas certain que ces pays soient prêts à suivre la Russie jusqu'au bout dans son offensive, étant donné qu'elle remet en cause aussi des fondements de l'ordre international auxquels ces pays peuvent être attachés. Et on sait par exemple que la Chine a, il y a quelques jours, fait savoir que le recours à l'arme nucléaire serait très clairement quelque chose qu'elle ne pourrait pas soutenir.
Marie Dumoulin, directrice du programme Europe élargie au Conseil européen des relations étrangères. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur notre site internet voaafrique.com. Ici à Washington, les communautés africaines se sont réunies au week-end passé pour célébrer leur culture. Organisé chaque année par le Bureau des Affaires africaines de la mairie, le Festival africain de Washington a voulu mettre en valeur la diversité culturelle et la contribution économique des Africains de la région. Notre collègue Thierry Kaoré était sur place. Son reportage.
Ils sont venus des quatre coins de la région de Washington DC pour célébrer l'Afrique. Sur le podium, plusieurs artistes musiciens, dont le Malien Cheikh Diabaté avec son orchestre.
Je représente l'Afrique, comme j'ai toujours dit. Et en tant qu'artiste, la ville de DC, ça progresse. Parce que moi, j'ai tellement d'élèves ici. On a vraiment beaucoup travaillé. Donc, pour moi, organiser des trucs comme ça, c'est très, très important.
Selon le Washington Post, environ 200 000 Africains vivent dans la région de Washington, D.C. On les retrouve dans plusieurs secteurs d'activité tels que la restauration, la mode, la musique et la danse. Le Festival africain de Washington permet de sensibiliser la communauté africaine sur plusieurs programmes comme l'éducation, l'emploi et la santé. Le docteur Adrien Goudiankama est membre de l'association de lutte contre le cancer chez les femmes africaines.
Investir dans la santé, c'est très important. Le cancer est un problème qui est très sérieux parmi les immigrés. Il est présent, les cancers, que ce soit les cancers de prostate, les cancers du sein, il est là. Alors, pour les cancers, nous savons que la formule, c'est quoi? Plutôt, il est détecté, mieux les traiter.
Le Bureau des Affaires africaines de la mairie de Washington, D.C. organise ce festival chaque année depuis 2010 pour donner plus de visibilité à la communauté africaine de la région et lui permettre d'avoir accès aux services et aux ressources locales. Gelila Guétané, directrice des opérations du Bureau des Affaires africaines de la mairie de D.C.
This is
C'est une excellente occasion de rassembler tous les résidents africains de Washington. C'est une occasion pour eux de venir et d'obtenir les différentes ressources qui sont ici disponibles, offertes par le gouvernement de Washington. S'ils ne sont pas en mesure de venir du lundi au vendredi, c'est une bonne occasion d'être ici pendant un événement. Ils seraient également en mesure d'obtenir des services dans les langues qu'ils parlent.
Le Festival africain de Washington n'a pas eu lieu l'année dernière en raison de la pandémie de COVID-19. Mais cette année, elle a tenu toutes ses promesses avec environ 500 participants, selon les organisateurs.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Fatouma Kalala Alimassi, à la console.